Chapitre 20. Dans l'après-midi, Baker envoie un email à Grace et est surpris de recevoir une réponse presque immédiatement, lui indiquant qu'il est le bienvenu à Harris le week-end, de préférence le samedi. « Vous voulez dire demain ?» vérifie-t-il. « Oui, demain. » Il appelle Elena pour la prévenir qu'il sera parti quand elle rentrera de Londres, mais il tombe sur sa messagerie. Il est tenté de jeter un œil à son compte Instagram, où il sait qu'il trouvera des photos de déjeuner dans des restaurants à la mode, de soirées dans des bars, de sorties au théâtre, autant d'aperçus d'une autre vie dont il se sent exclu. Le fait qu'il s'en soit exclu lui-même ne lui aide aucun réconfort. Alors il ne regarde pas. Trop dangereux. Le sentiment qu'il éprouve à cet instant, ce besoin de la revoir, le rend nostalgique du temps où il n'était pas encore avec elle, et où l'idée de la conquérir ne pouvait relever que du fantasme. Il y avait quelque chose d'excitant à considérer Elena comme un objet de désir inaccessible, plutôt que comme sa femme. Au tout début, quand il venait tout juste d'arriver à Fairburn, Elena passait son temps à venir le voir dans son bureau à l'improviste, glissant la tête par la porte, toujours pressée, pour lui poser des questions auxquelles n'importe qui d'autre aurait pu répondre, à commencer par son futur mari. Si quelqu'un les surprenait à un tel moment, elle se troublait aussitôt et se mettait à rougir. Baker s'est d'abord dit qu'il se faisait des idées, forcément. Mais un soir de printemps, après une journée magnifique, alors que les hirondelles survolaient la pelouse en rase-motte et que le soleil déclinant inondait d'une lueur dorée les magnolias devant la fenêtre de son bureau, elle est entrée dans la pièce au moment où il éteignait son ordinateur. Elle était habillée pour sortir, robe en soie dans les tons orangés, talons, rouge à lèvres. Elle a refermé la porte, s'est approchée de lui, et avant qu'il ait pu prononcer le moindre mot, s'est penchée et lui a déposé un baiser sur la bouche. Puis elle s'est redressée et elle a reculé d'un pas. Elle a attendu quelques secondes et, comme il ne réagissait pas, elle a fini par esquisser un sourire triste. « On est censé envoyer les invitations pour le mariage la semaine prochaine », a-t-elle dit avant de s'éclipser sans lui laisser le temps de répondre. Il grimace en y repensant. Quel lâche! Il n'a rien fait, rien dit. Pire, les jours suivants, il a tout fait pour l'éviter, s'empressant de rebrousser chemin chaque fois qu'il croyait l'apercevoir au bout d'un couloir. Quant aux invitations, elles ont été envoyées à la date prévue. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Sauf que, de toute évidence, le destin, sous la forme improbable de Lady Emmeline Lennox, semblait en avoir décidé autrement. Un faux pas dans la bruyère, un coup de feu qui part sans prévenir et, en un instant, la vie de Douglas qui s'arrête. Il a fallu remettre le mariage à plus tard. Et pendant que Sébastien s'efforçait de réconforter sa mère bouleversée tout en faisant son deuil, Baker a saisi sa chance. Un jour, vers la fin de l'été, à l'époque où les rhododendrons transforment les prairies en immenses tapis violets, Baker est allé chercher Elena à la gare, à la demande de Sébastien, qui devait emmener sa mère choisir des fleurs pour l'enterrement. Il a accueilli Elena sur le quai et l'a ramenée en voiture, sauf qu'au lieu de la déposer au manoir, il s'est arrêté devant le logis du garde-chasse où il résidait. Aujourd'hui encore, il n'en revient toujours pas. La chaleur de cette journée, les fenêtres grandes ouvertes, les ombres qui s'étiraient au fur et à mesure que l'après-midi progressait, le fait de savoir que Sébastien ne rentrerait pas avant la nuit et qu'il avait donc plusieurs heures devant lui. Dans le bleu du crépuscule, il s'est levé pour aller remplir deux verres d'eau à la cuisine. Quand il est remonté dans la chambre, il a enfin trouvé le cran de lui demander « C'était quoi ce qui vient de se passer entre nous pour toi ? Un moyen d'exorciser tes doutes avant le mariage ?» Elle était assise sur le lit, les joues rouges et le front luisant de transpiration, les jambes ramenées devant la poitrine. « C'est ce que tu penses de moi ? » a-t-elle rétorqué blessée. « Que je serais capable de trahir Sébastien à la légère, sans y réfléchir au préalable ?» Baker a secoué la tête et lui a tendu un des verres, avant de la rejoindre sur le lit. « Non, bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Je ne comprends pas ce que tu veux. » Il était terrifié, il s'en souvient, ses mains tremblantes portant le verre à ses lèvres. Au bout de ce qui lui a semblé durer une éternité, elle a fini par répondre. « La première fois que je t'ai rencontré, le soir où on a tous bu quelques verres au manoir, tu te rappelles? Il y avait Seb et moi, Emmeline et Douglas et toi. Tu étais si discret, tu parlais si doucement. » Une vraie petite souris, j'ai pensé. Beau, aussi. Pas de la même manière que Seb, mais... Baker a tressailli. C'est vrai, a-t-elle ajouté avec un haussement d'épaule. Tu vois très bien ce que je veux dire. » Elle s'est assise en tailleur, un oreiller sur les genoux. À un moment, Douglas a commencé à t'interroger sur ton travail, sur Chapman, et d'un coup, tu n'étais plus si discret. Vous n'étiez pas d'accord sur la façon de mettre en valeur les œuvres que vous deviez exposer. Douglas s'est mis à jurer et à vociférer. Selon lui, il fallait absolument respecter l'ordre chronologique, mais toi, tu lui as rétorqué que les sculptures que tu venais de découvrir étaient un rappel évident de ses premiers paysages de l'Oxfordshire, où elle prenait des brins d'herbe, des graines et d'autres petits éléments qu'elle incrustait dans la peinture. Par ses sculptures, elle avait inventé une nouvelle manière d'utiliser des objets trouvés et de se rapprocher de la nature. « Et il m'a répondu qu'il fallait que j'arrête de ramener ma science, » a répliqué Becker avec une grimace. « Que je devais cesser de réfléchir comme un étudiant en histoire de l'art et commencer à penser comme le gérant d'un espace commercial.
» Oui, je me souviens.
Ensuite, Seb a décidé de s'en mêler. Sans surprise, il a pris le parti de son père. Je ne me rappelle plus ce qu'il a dit, probablement parce qu'il n'avait rien à dire, mais tout ce qui sortait de sa bouche était si simpliste, si superficiel. Toi, à côté, tu étais tellement posé. » Elle a souri, en rougissant un petit peu. « J'ai trouvé ça très attirant. Je n'ai pas arrêté d'y penser, après coup, à ton sang-froid. » Le rougissement s'est accentué, et elle a ajouté. « Après cette première soirée, j'ai compris que tu avais du relief, de la matière. Alors que Seb, aussi gentil soit-il, est quelqu'un de très creux. »
Becker repense au plaisir coupable qu'il a éprouvé en entendant Elena rabaisser ainsi Sébastien. Un sentiment chaud et délicieux.
« Ce n'est pas sa faute, » s'est empressée d'ajouter Elena. « Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il n'a jamais eu besoin de travailler. Il n'a jamais connu la moindre difficulté. Et au fond, moi non plus. Je suis exactement comme lui, un fétu de paille qui menace de s'envoler au premier coup de vent. Alors il me faut un ancrage, et je veux que ce soit toi. »
Quelques heures plus tard, pendant qu'Elena était sous la douche et Becker à la cuisine en train de remplir un verre de vin et de réfléchir à ce qu'il allait bien pouvoir lui dire avant qu'elle parte, il a soudain pris conscience qu'il allait devoir démissionner. Pour avoir Elena, il allait devoir abandonner Vanessa. Et il s'était figé, le verre à quelques centimètres de ses lèvres. Étudier Vanessa, lire ses mots, écrire sur elle, s'immerger dans son œuvre, c'était l'aboutissement de tout son parcours, le rêve de sa vie. Et alors même qu'il était sur le point de l'atteindre, il allait devoir y renoncer. « Ça n'en vaut pas la peine », a-t-il songé. « Elena n'en vaut pas la peine ». Cette pensée n'a duré qu'une seconde, qu'une fraction de seconde même, mais le fait est qu'elle lui a traversé l'esprit. Puis, Elena est descendue, ses longs cheveux coiffés en chignon, son visage entièrement dépourvu de maquillage, ses yeux un peu rouges. La faute au shampoing ou aux larmes? Elle était d'une beauté à couper le souffle. Évidemment qu'elle en valait la peine. « Je vais démissionner », a déclaré Becker. « On va partir d'ici, on va aller s'installer ailleurs.
Pourquoi ?»
a demandé Elena, visiblement surprise.
« Comment ça, pourquoi ? Tu es fiancée, Elena, et nous... »«
Becker !»
s'était l'esclaffé avant de l'embrasser à pleine bouche.
« Qu'est-ce que tu peux être, vieux jeu ? Oui, ça va faire des histoires, oui, Sébastien va être en colère, il va être blessé, mais il s'en remettra. Il y aura une autre fille dans un mois ou deux, puis une autre un mois ou deux après ça. Ne t'en fais pas pour lui. »
Alors Becker est resté. Ils sont restés. Et Sébastien, le gentil Sébastien, l'impassible Sébastien, s'en est effectivement remis. Il a disparu quelques mois, le temps de faire de la plongée dans les Maldives, de la randonnée en Espagne, d'entretenir quelques liaisons sans lendemain. Puis la pandémie a frappé, et il est rentré. Seul.
« Sans rancune, » a-t-il juré. « C'est la vie, je m'incline. »
Le reste de l'après-midi, Becker range son bureau, envoie des emails et passe des coups de téléphone. Des sociétés de vente aux enchères avec lesquelles il doit discuter de ventes à venir, un collectionneur privé qu'il espère convaincre de leur prêter des œuvres pour l'exposition de l'été prochain. Il s'apprête à partir quand Sébastien glisse la tête dans l'entrebâillement de la porte. Il porte un smoking, mais n'a pas encore eu le temps de nouer sa cravate. Et avec sa barbe soigneusement taillée à 1 mm, il fait penser à un mannequin dans une publicité pour une eau de toilette.
« Est-ce que c'est toi qui as piqué le carnet que je lisais tout à l'heure ?»
demande-t-il.
« Celui avec la liste à la fin. »«
Je pars pour Eris demain, » soupire Becker. « J'en ai besoin pour le montrer à Grace. C'est la seule trace qu'on a concernant ses œuvres manquantes. »«
Pas de problème. »
Sébastien fait mine de partir, puis se ravise.
« Tu me tiendras au courant, hein ?
Je veux que tu me racontes sa réaction quand tu lui présenteras la preuve irréfutable de ses mensonges. »
Becker hoche la tête.
« Je suis sérieux, Becker. J'attends des résultats maintenant. Alors s'il faut la secouer un peu, tu n'hésites pas. »
« Comme tu veux, mais je pense quand même qu'on ferait mieux de ne pas se la mettre à dos. » Sébastien lève les yeux au ciel, mais Becker insiste.
« J'ai le pressentiment que cette affaire va se révéler plus complexe qu'on l'a anticipé. Après tout, Grace nous a confié ce carnet en sachant pertinemment que cette liste figurait à l'intérieur. Pourquoi l'aurait-elle fait si elle cherchait à nous cacher quelque chose ?»
Sébastien hausse les épaules et regarde sa montre.
« Il a vraiment la capacité de concentration d'un enfant de 5 ans, songe Becker. Il est déjà passé à autre chose, à son dîner sûrement.
« Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu me tiennes informé, »
dit Sébastien. Et il sort son téléphone de sa poche avant de s'éloigner. Au bout de quelques pas, il s'arrête, se retourne.
« Au fait, Beck, tu ne t'es jamais demandé comment ça se fait qu'on ait hérité de tout ?»«
Pardon ?»«
Tu ne trouves pas ça bizarre ? Pendant 20 ans, Grace Haswell a partagé la vie de Vanessa. Elle a été son amie, son auxiliaire de vie quand elle est tombée malade. Et pourtant, pour reprendre tes mots, elle s'est retrouvée avec rien. Pourquoi, à ton avis ? »
Journal de Vanessa Chapman. Je ne sais pas vraiment comment écrire ce qui s'est passé. Je vais raconter tout ce dont je me souviens, mais je doute que ce soit parfaitement fidèle. Il était 16 heures et je travaillais dans l'atelier. Il faisait sombre, la nuit n'était pas encore tombée, mais le soleil ne s'était pas montré de la journée. Froid, du vent. Comme j'ai cru entendre une voiture, je suis sortie, mais je n'ai pas vu de phare, ni sur la chaussée, ni sur le chemin. Je suis rentrée me remettre au travail. Je venais d'enfourner des céramiques quand j'ai cru voir un mouvement derrière la fenêtre. Une ou deux secondes plus tard, un homme est apparu sur le seuil. J'ai tout de suite su qu'il allait me faire du mal. J'ai reconnu le mécanicien qui était venu réparer mon quad l'hiver dernier. J'ai attrapé le fusil appuyé contre le mur. L'homme a commencé à s'avancer vers moi, sans rien dire, sans le moindre bruit. Il se contentait d'avancer. J'ai braqué le canon sur lui. Il n'a pas ralenti. Alors j'ai tiré, mais l'arme s'est enrayée. J'ai voulu le frapper avec la crosse. J'ai été trop lente. Il m'a agrippée et jetée au sol. Je me suis mise à hurler, et hurler. D'une main, il m'a attrapé la gorge, et de l'autre, il a tenté de déboutonner mon jean. J'imagine que j'ai fermé les yeux parce que, soudain, j'ai entendu un horrible gargouillis et je n'ai plus senti son poids sur moi. J'ai compris que quelqu'un d'autre était entré dans l'atelier. Grace avait passé un demi-fil à couper l'argile autour du cou de mon agresseur et le tirait en arrière. Lui se débattait en donnant des coups de pied. Il essayait de glisser les doigts sous le fil métallique qui lui cisaillait la gorge. Il s'est démené comme ça un long moment, en faisant cet affreux bruit étranglé. Moi, je crois que je ne bougeais pas. J'étais à genoux, il me semble. Au bout de quelques minutes, il a arrêté de résister. Grace l'a poussé en avant et il s'est étalé à plat ventre. Tout en maintenant le fil serré, elle m'a hurlé d'appeler la police. Je n'ai pas réagi. Je tremblais si fort que j'avais l'impression que je ne contrôlais plus mes mouvements. Grace a encore crié « Mais bon sang, va appeler la police, attrape le fusil et va appeler la police !» Là, je me suis levée et j'ai couru jusqu'à la maison. J'ai téléphoné au commissariat. En larmes, j'ai expliqué qu'un homme nous avait attaqués et que mon ami l'avait tué, mais je n'ai pas pu répondre aux questions du standardiste, je ne faisais que pleurer et pleurer. Il n'était pas mort. Quand je suis remontée à l'atelier, je l'ai entendu vociférer. Grace lui avait attaché les chevilles avec de la ficelle et les poignets avec sa ceinture. Il avait encore le fil autour du cou. On est resté là jusqu'à l'arrivée de la police. Grace agenouillée dans son dos, le fil entre les mains, et moi qui le tenais en joue. Pendant qu'on attendait, il n'a pas cessé de parler. Il n'a pas cessé d'expliquer ce qu'il comptait faire pour se venger, pour me faire mal, les outils qu'il utiliserait contre moi. La police a mis 1h30 à arriver. Grace a passé la nuit ici. Je lui dois la vie. Je lui dois tout.